7h15, alors parlons de taux directeurs, de taux d'intérêt.
Oui, juste après les nouvelles culturelles, c'est ce que les gens veulent entendre parler, le taux directeur, Paul. Non, on pense aujourd'hui qu'on va se maintenir à 1,75% à la Banque du Canada au niveau des analystes et on jase, Paul. Évidemment, ça influence le taux préférentiel qui influence nos taux variables, donc marge de crédit et prêt hypothécaire variable, surtout. Et c'est intéressant parce que pour une des rares fois, on a une courbe relativement inversée, c'est-à-dire que les taux obligataires sont tellement bas que présentement, tout le monde m'écrit en me disant, mais pourquoi est-ce que pas tout le monde va signer taux fixe 5 ans? Il est moins cher que le taux variable, donc c'est sûr que c'est bon. Ben, il suffit d'une ou deux baisses de 25 points de base par la Banque du Canada pour qu'on retourne à un taux variable qui est intéressant à moyen terme. Et c'est pour ça que si tu regardes les taux que les prêteurs, les courtiers hypothécaires offrent présentement, oui, le 5 ans fixe est plus intéressant. On peut signer entre 2,4 et 2,6 % sur 5 ans fixe, mais le taux variable à une ou deux baisses va être plus intéressant. Somme toute, c'est des taux qui sont très bas historiques, mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, les gens doivent comprendre que s'ils signent fixe maintenant 5 ans, ils ont un avantage pour quelques mois, mais cet
Mais ça
avantage-là
dépend,
pourrait se renverser.
je dirais, de, comme tu as déjà dit assez souvent, là, ta capacité d'endurer un stress. C'est-à-dire que si pour toi, signer 5 ans avec le taux fixe, tes paiements sont déterminés pour les 5 prochaines années, ça te sécurise,
Sécurise.
puis que tu n'as pas eu le goût de jouer tous les ans, voir comment le marché va évoluer. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça que les économies qu'on peut faire, non?
Ah oui, mais il y en a qui aiment tellement ça, pas le gagner.
Oui,
Tu sais, c'est
je
comme quand
comprends.
les gens m'écrivent et me disent « Hey, le taux de change américain, qu'est-ce que t'en penses, là? Je vais changer mon 200$, puis je me demande, je vais le faire tout de suite ou dans 2 mois? » Puis là, je leur dis « Mettons que ça variait d'une scène, là. Tu
Non,
gagnerais
mais c'est ça.
combien? » Fait que là, c'est juste des fois, c'est le thrill, mais t'as raison. Quand t'es capable de figer pour 5 ans ton budget que t'es capable de payer, c'est souvent ça qui est important pour la majorité des gens.
Parlons d'aide financière aux études.
Oui, il y a un exemple d'une étudiante qui a 30 000 de dettes dans le Huffington Post hier et on voulait en parler plus de ça. Donc, OK, on va en parler. Donc, il faut distinguer deux grandes catégories si vous êtes sur le bord de vous endetter pour la vie. D'un côté, il y a l'aide financière du gouvernement, garantie par le gouvernement, et il y a les institutions financières qui ont mis en place de l'autre côté des prêts étudiants, des marges de crédit étudiantes. Comprenons que la marge de crédit étudiante de la banque, elle n'est pas garantie par le gouvernement. Donc, pendant vos études, vous allez payer les intérêts. Les intérêts coûteront plus cher que les intérêts payés sur un prêt étudiant du gouvernement. Et sachez que le prêt étudiant du gouvernement vous donne avantage un taux qui est moins élevé. Hein? Vous allez payer probablement 0,5 % de plus que le taux préférentiel, alors que la marge de crédit étudiante, on parle de 1,3, puis là, ça dépend après vos études de votre capacité de crédit et de votre dossier de crédit. Et après ça, ce qui est le fun aussi, c'est que l'intérêt sur le prêt du gouvernement, ce qu'on appelle l'aide financière aux études, commence à courir après les études, ce qui n'est pas le cas d'une marge de crédit étudiante de votre banque. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi, l'aide financière aux études, j'y ai pas droit. Ouais, j'allais faire des calculs, Paul, j'allais faire un petit scénario. Là, évidemment, il y a plein de variables, mais je voulais montrer l'impact de gagner de l'argent pour un étudiant. Je t'allais prendre un étudiant que les parents n'ont pas d'argent, que l'étudiant ne travaille pas, qui est au premier cycle universitaire et qu'il est encore sous la responsabilité de ses parents. Alors, j'ai fait un scénario et il recevait un total de 7 240 $ d'aide financière aux études, dont 4 700 $ de bourse. Donc, les bourses sont non remboursables. Et là, je me suis dit, tiens, je vais prendre le même scénario dans le logiciel de simulation du gouvernement et je vais lui mettre 10 000 $ de salaire. Qu'est-ce qui arrive? Sa bourse est hypothéquée de 2 716 $, alors il paye un impôt implicite sur sa bourse, si tu veux, ou une réduction de la bourse de 58 %. Et ça, c'est le calcul que plusieurs étudiants font en se disant, si je m'en vais gagner 10 000, je vais perdre en bourse, donc en revenu non remboursable, 58 % de ce que je devais recevoir. Et au niveau du prêt, ça va être la même chose. Donc finalement, certains font des calculs et ne vont pas travailler pendant une certaine période. Je te donne un exemple. J'étais rendu au deuxième cycle universitaire. J'avais fini mon baccalauréat. Et là, pour la première fois, mes parents ne comptaient pas. J'ai eu le droit au prêts et bourses. Et quand je suis arrivé à la bourse, si j'allais travailler le petit mois et demi que j'avais l'été, Paul, là, entre mes deux programmes, je perdais 50 %, tu sais, 50 cents par dollar gagné sur ma bourse. Alors, j'ai décidé d'ouvrir une marge de crédit parce qu'il me restait quelques mois d'études et d'aller à la place me concentrer sur mes études. Alors, tu vois que l'aide aux études, des fois, encourage les gens à s'endetter en regardant des situations. Et là, le remboursement après ça. Ce que les gens souvent oublient, c'est que le prêt étudiant, c'est quand même la meilleure dette au monde parce que, en plus que l'intérêt sur le prêt étudiant soit un taux favorable, il y a un crédit d'impôt sur les intérêts que tu payes après tes études.
C'est un bon investissement en plus. Là, ben oui. Tu payes pour aller te chercher une formation, un diplôme, puis ultimement améliorer ton sort. Là.
Évidemment, ça dépend dans quel programme, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui mènent à peu de choses. Mais tu as raison, Paul, ultimement, ça devrait être une logique financière. Et là, il y en a qui me disent « Ouais, mais je peux-tu faire faillite de mon prêt étudiant? » Eh bien, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut attendre 7 ans après la fin de vos études pour que le prêt étudiant soit inclus dans une faillite. Pourquoi le gouvernement dit 7 ans? C'est pas fou dans le fond quand tu y penses. Parce que 7 ans après tes études, tu vas commencer à vouloir être établi et par conséquent, ça va être plus coûteux pour toi de faire faillite que de sortir des études puis de faire faillite tout de suite. Donc, le gouvernement est prêt à vous aider dans la faillite, mais pas si c'est lui le créancier.
Comme d'habitude. Salut, bonne journée. Salut. 7h21.